et vous écoutez France Culture. Le détective sympathique ne résout pas toujours le mystère. Parfois, il n'y a pas de mystère. Et même pas de détective du tout. Mais alors il reste de l'action, de l'angoisse, de la violence sous toutes ses formes et particulièrement les plus honnies, du tabassage et du massacre. Marcel Duhamel. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre en pleine marée noire ce dimanche, un noir dense et charnu, celui dont on fait les films, les romans et les séries. Nous descendrons en effet de ses origines anglaises à son actualité la plus récente, l'histoire du roman noir français, et ce grâce à Natacha Levet qui publie au PUF le roman noir, une histoire française, chronique en second temps d'émission, signée Élise Lépine et Céline Duchesnec. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce dimanche noir sur Mauvais Genre, puisqu'il sera question de l'histoire du roman noir, de l'histoire du polar, en tout cas depuis le 18e jusqu'au 20e siècle. Dites-moi, Natacha Levet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre invitée pour ce livre qui paraît au PUF, le roman noir, une histoire française. C'est une histoire française, mais on va pas commencer le débat comme ça, au débeauté, mais c'est une histoire qui se nourrit d'énormément d'éléments extérieurs aussi.
Oui, c'est une histoire qui se nourrit de beaucoup d'influences, parce qu'on a tendance parfois à considérer que le roman noir vient en droite ligne du roman d'énigmes et pas grand-chose d'autre, et qu'il faut en passer par le roman noir américain avant que le roman noir français n'advienne. Et c'est un petit peu plus compliqué que ça.
Voilà, ben merci d'avoir rendu cette histoire à la complexité, Natacha Levet. On va donc évoquer tout cela avec vous. C'est un livre qui a effectivement le mérite d'exister, puisqu'il y avait pas vraiment d'histoire équivalente auparavant. Il y avait les travaux d'érudition de nos maîtres, Mesplède, Guérif, Jacques Baudou, depuis Régis Messac, qui a ouvert le feu dans les années 20-30.
Oui.
Et là, donc, vous actualisez le propos. Soyez la bienvenue à Mauvais Genre. Vous serez soumis au feu roulant, comme on dit, des questions d'Élise Lépine.
Bonjour.
Bonjour. Actualité d'Élise Lépine.
Actualité, plongée dans les livres. Voilà, il y en plongée a de plus en plus en librairie. Il y a une vague de polars qui arrive là, avec Quai du Polar qui se profile dans un mois. Et donc, les éditeurs s'affolent.
C'est l'anniversaire, d'ailleurs, de Quai du Polar.
C'est les 20 ans. Donc, on va fêter ça.
Bah oui, j'espère bien. Bah oui, c'est une manifestation à laquelle nous sommes attachés, puisque souvent de fois, nous y sommes allés et on a fait de très belles rencontres. Honneur donc à Quai du Polar. Honneur aussi à Céline Duchesnec.
Bonjour, François.
Alors, quoi de neuf?
Je vais vous proposer une petite déambulation dans les cimetières.
Oui, ah bah c'est peut-être, rassurez-moi, aucun lien
journée
avec le
noire,
sujet d'aujourd'hui.
Non. Mais je pense que ça peut nous réserver quelques bonnes surprises. Ah, on verra si c'est vraiment un dimanche noir ou pas.
Bien évidemment, en tout cas, ce sera donc un cimetière revigorant une fois.
Comme toujours.
N'est pas coutume, Mauvais Genre reçoit donc aujourd'hui Natacha Levet pour le roman noir, une histoire française au PUF. Mauvais genre qui reçoit donc Natacha Levé pour son histoire du roman noir. Céline Duchesnay, vous avez croisé récemment Natacha Levé, mais pas du tout pour l'histoire du roman noir, pour quelque chose qui est même à l'opposé, l'antagoniste du roman noir, qui est le roman de détection.
Oui, et puis je peux même pas dire que je l'avais croisé, parce que nous avions fait un entretien duplex. Natacha Levé était à Limoges et moi à Paris, donc je découvre son visage, mais nous avions parlé de Conan Doyle, puisque en décembre dernier, il y a eu une diffusion dans toute une vie de Conan Doyle et j'avais parlé avec Natacha Levé notamment de la présence du merveilleux dans la vie et l'œuvre de Conan Doyle et à quel point le merveilleux peut aussi devenir une sorte de, je dirais, de colonne vertébrale pour les êtres humains que nous sommes face à la mort notamment.
Natacha Levé, c'est vrai que Conan Doyle est quand même traditionnellement de l'autre côté de la barrière, si j'ose dire. C'est pas du tout le roman noir, lui.
Ah non, pas du tout, pas du tout. Mais ça m'avait intéressé de travailler sur Sherlock Holmes et sur Conan Doyle, plutôt pour étudier d'ailleurs les circulations de cette œuvre-là, en particulier dans l'espace européen, mais également dans le monde entier, et la manière dont ce personnage devenu mythique continue à imprégner nos imaginaires, et toute génération confondue, ce qui est assez extraordinaire pour le coup.
Parce que Holmes, c'est quand même le modèle contre lequel, entre guillemets, s'est construit le roman noir.
Oui, absolument.
C'est un détective omniscient, une énigme à résoudre, la société à défendre, et puis à la fin, eh bien, le génie du détective omniscient a rendu la paix à la société. C'est le contraire du roman noir.
Oui, c'est le triomphe de la raison, effectivement, et c'est un retour à l'ordre, un moment troublé par l'irruption du crime ou de la violence. Et le roman noir, lui, n'opère jamais de la sorte. En tout cas, le roman noir qui m'intéresse dans ce livre, il va plutôt vers le chaos. Il explique le désordre, mais il ne cherche pas du tout... Je dirais qu'il ne cherche pas à rassurer le lecteur. L'état du monde n'est pas du tout rassurant aux yeux du roman noir.
C'est ça, le monde est dans le chaos et le but du romancier, c'est de faire sentir au plus vif la catastrophe qui est celle de l'homme et de sa société. Alors, noir, roman noir. Quand on lit l'histoire du noir, Michel Pastoureau, qui est spécialisé dans la question, on se rend compte que le noir n'a pas toujours été symbole de chaos, symbole de dépression, symbole d'horreur. Pendant longtemps, c'était le symbole de l'autorité, de l'austérité quasi doctorale à l'époque des Hollandais qui se faisaient peindre en noir, en costume noir, les jansénistes. Le noir, c'était les docteurs, le sérieux, la redingote de la Troisième République. Et puis après, ça a été les bronzés, enfin les gens qui travaillaient en extérieur, donc il y avait un teint qui était un peu brûlé. Et puis ça finit. À quel moment c'est devenu le noir que nous affectionnons?
Je pense qu'il y a une bascule qui se fait au moment du romantisme, et où d'un seul coup on bascule dans les ténèbres avec, pour ce qui est plus proche du roman noir, le gothique et le roman gothique qui est effectivement une des sources du roman noir. Et là on a une exaltation de la nuit, de tout ce qui est nocturne, tout ce qui est ténébreux, et à tel point par exemple que dans les films noirs américains, les scènes sont volontiers nocturnes, y compris dans une ville comme Los Angeles, qui évoque plutôt le rayonnement, et il pleut toujours, ce qui n'est pas non plus le cas à Los Angeles, mais ça fait partie de la mythologie du noir.
Effectivement, Élise Lépine, quand on lit le livre de Natacha Levé, on commence non pas dans les années 20, on se dit avec Dashiell Hammett, Black Mask, le Hard Boil, on commence au XVIIIe siècle avec le roman gothique anglais, les ruines, les héritières cadenassées dans les caves par de cupides oncles ou de cupides malfrats. Ça commence beaucoup plus loin qu'on ne pense, le roman noir.
Mais tout à fait, moi j'étais même très intéressée de voir que vous remontez jusqu'à Sophocle et jusqu'à l'Antiquité et jusqu'à la Bible, en fait, pour montrer que Œdipe Roi, moi, je ne l'avais jamais vu comme effectivement un lointain ancêtre du roman noir. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cette blessure de naissance, ce mystère des origines, ce crime, cet inceste. Enfin, tout est là. Et c'est assez fascinant de voir qu'en fait, ce roman noir qu'on pense très moderne et remonte à très loin dans le temps.
Oui, il puise à des origines antiques dans sa dimension tragique. Alors après, ça n'est pas du tout le même tragique que le tragique de l'Antiquité. C'est un tragique dégradé en quelque sorte, puisque dans les tragédies de l'Antiquité, les formes force antagoniste qui écrase et détermine la trajectoire des personnages, ben, ces forces sont des forces supérieures, transcendantes, qui représentent de véritables valeurs. Alors que dans le roman noir, on a une dégradation et les forces antagonistes sont des forces du chaos, justement, et pas du tout des forces positives. Après, c'est aussi des filiations qu'il faut manier avec prudence parce qu'elles permettent aussi de légitimer le genre. Et bon, il y a des influences, mais voilà. Par exemple, je m'inscris en faux contre l'idée, voilà, que Sophocle est un récit noir, quoi. C'est, bien sûr, ça n'est pas le cas.
Il y a même eu à la série noire une tentative de reformuler Didier Lamaison.
Oui.
Grand succès.
Oui, oui.
Oedipe en série noire. Et alors, page 91, vous donnez un tableau avec des flèches dans tous les sens. On part du roman gothique anglais, effectivement, on passe par le romantisme. Après, il y a tout un tas de filiations qu'on va analyser. Mais roman noir, il faut bien se dire une chose, c'est que c'est une expression qu'on attribue au film noir aux Américains, mais ce sont des Français. C'est oui. Les Français d'après-guerre, c'est les Bords des Chaumetons, les fameux fans d'après-guerre, c'est qui ont inventé cette idée de film noir et qui oui. a été anglicisé par les Américains.
Oui, c'est un curieux effet boomerang. L'arrivée des films, enfin de ce qu'on appelle donc les films noirs américains se fait dans l'après-guerre et de manière assez massive sur les écrans français. Bon, ça c'est lié à la période de l'occupation, aux accords d'après-guerre, etc. Mais du coup, les critiques français et cette nouvelle critique qui est en train de se construire en France repèrent des points communs esthétiques, narratifs, thématiques aussi. Et l'expression film noir naît effectivement sous la plume des critiques cinématographiques français et revient vers les États-Unis. Où elle est toujours utilisée, en effet, et va glisser aussi, bien sûr, vers la littérature.
Et la série noire a profité donc de cette dénomination cinéphilique, plutôt, alors ?
Oui, il y a des effets de communication, de glissement qui s'opèrent très très tôt. Bon, la série noire, la collection est nommée dès 1945, donc avant cela, très peu de temps avant, bien sûr. C'était plutôt un jeu avec l'expression « c'est une série noire ». Mais même si Duhamel n'emploie pas l'expression « roman noir », on voit bien les parentés, là aussi, dans les traits identifiés. Ce qui fait que, très rapidement, on parle de roman noir. Et on en parlait de toute façon avant la guerre, mais pour d'autres choses.
À quel moment est-ce qu'on va vraiment, et est-ce que c'est une spécificité française et pourquoi, est-ce qu'on a cette question du roman noir qui s'oppose toujours dans notre esprit et dans les rayons de nos librairies à la blanche, la fameuse blanche avec un B majuscule. J'ai l'impression, en tout cas j'avais l'impression en lisant votre livre, que c'est vraiment quelque chose qu'on a nous-mêmes inventé et qui est devenu une espèce d'obsession française, qui est celle du classement avec d'un côté la noire, de l'autre côté la blanche. Est-ce que ça vient justement de ce regard qu'on a porté après-guerre sur le film noir américain et qui va infuser plus profondément chez nous qu'ailleurs en créant vraiment une catégorie qui parfois peut malheureusement être une sous-catégorie.
Oui, mais alors je crois qu'il y a quand même quelque chose effectivement de très français dans cette manière d'opposer bah, les mauvais genres, les littératures de genre, c'est vrai aussi pour les autres arts, à la blanche, à la littérature légitime, à l'édition belles-lettres. L'effet des collections dans l'après-guerre va permettre de cristalliser cette opposition qui n'existait pas vraiment dans les années 30 lorsque les premiers hard-boiled venus des États-Unis sont traduits. Ils sont traduits parfois dans des collections de romans d'aventure ou d'autres
d'H.L.
collections.
Hamet,
voilà, absolument, d'H.L. Hamet, mais aussi dans des collections, enfin la NRF, tout simplement, et ils sont assimilés aux romans américains tout à fait novateurs dans la forme, dans le style. Et puis arrive la série noire et toutes les autres collections, et là, le roman noir se trouve à la fois identifié et, il faut bien le dire, relégué dans le ghetto générique, dans le ghetto des mauvais genres. Il va mettre du temps à s'en extirper.
Mais il y a quand même des ambiguïtés, là. On avance un peu dans le temps. Enfin, la figure de Gide, on peut pas dire que ce soit quelqu'un qui soit, je veux dire, enfin, qui est fort mauvais genre et qu'on a beaucoup joué, mais il a eu quand même, il a avoué son goût pour Simenon, qu'il appréciait infiniment. Il a salué le sens étonnant du dialogue de Dashiell Hammett. Gide, c'était quand même, j'allais dire, la figure tutélaire de la NRF. Donc déjà, les choses étaient un peu biaisées quand même.
Oui, alors il faut dire que la série noire a un statut particulier. C'est quand même Gallimard, c'est pas n'importe quel éditeur. Et Duhamel, par ses activités antérieures, frais avec les avant-gardes, on va dire. Et puis, lorsqu'on a des préfaces...
Surréaliste.
Oui. Notamment, et lorsqu'on a des préfaces pour les premiers Français de la série noire notamment, mais pas seulement, bah ce sont des figures intellectuelles et artistiques majeures qui les signent. Donc la série noire, elle a quelque chose de particulier, et puis bien sûr, Duhamel reprend des titres avec des retraductions, mais qui ont été publiés chez Gallimard avant la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a cette espèce d'entre-deux qui fait que le roman noir ne sera jamais tout à fait la lie des mauvais genres.
Culture, mauvais genre, François Angelier.
Et Laurent Polleret qui nous a aussi trouvé une musique de chaos dépressif et tragique comme on en fait peu. Alors on a évoqué Natacha Levé, le roman gothique anglais avec effectivement énormément d'ingrédients de ce qui sera le roman noir, c'est-à-dire les intrigues familiales, l'écrasement des faibles par les puissants, tout un décor angoissant. On n'est plus encore dans les usines désertes ou dans les docks, mais on est déjà dans des ruines castrales, des ruines féodales, tout ça. On a déjà le noyau d'origine de tout cela. Ensuite, vous citez le roman feuilleton français qui est lié quand même à toute l'histoire, je dirais, à l'émergence de la ville comme mythe littéraire. Parce que autant, effectivement, le roman gothique peut se passer dans des campagnes désertes, autant à partir du 19e, c'est-à-dire Eugène Sue, Paul Féval, Balzac, et puis après Zola, enfin, on va pas tous les énumérer, il y a vraiment une espèce d'incrustation complète de ce type de récit dans la ville, dans la grande ville. Et puis c'est Londres, on parlait de Sherlock Holmes, c'est la naissance de la mythologie de Londres comme Babylone définitive de tout ce qui est noirceur.
Oui, effectivement, le roman noir, finalement, quel que soit l'origine qu'on préfère lui donner. Par exemple, pour les États-Unis, on parle aussi du western, et c'est le western transposé dans les...
Bah, même que les Mohicans de Paris d'Alexandre Dumas, c'était le roman d'Indien transposé.
Exactement. Donc, pour le roman populaire français, il y a effectivement les mystères urbains qui jouent un rôle fondamental, avec bien sûr, Sue, Féval. On voit déjà des matrices de ce que sera le roman noir. Et puis, la ville, je crois aussi qu'il faut la saisir hors fiction, c'est-à-dire que le développement, la croissance urbaine est assez peu maîtrisée. Londres en est un excellent exemple, mais à Paris, on a aussi tout l'imaginaire des faubourgs qui se développent, de l'au-delà des fortifs, avec les apaches qui terrifient le bon bourgeois et qui sont très rapidement assimilés par la culture populaire. Et donc, on va avoir dans le roman noir des résurgences même assez tardive de cet imaginaire-là, qui va ensuite se transposer en imaginaire déjà de la banlieue dans les années 1970, par exemple. Donc c'est tout un imaginaire urbain qui irrigue ce genre et cette production protéiforme.
Élise Lépine. Mais vous parlez quand même, alors je ne retrouve plus le passage, mais d'une... d'une émergence du roman noir rural dans les années 60, qui préfigure cette vague du roman noir rural qu'on croyait un peu nouvelle assez récemment.
Ouais, non, quand on regarde, ne serait-ce que le catalogue de la série noire ou celui de Fleuve Noir, on tombe sur des tas de romans noirs ruraux. Alors parfois, honnêtement, la ruralité n'est pas un sujet, c'est juste un décor avec des histoires de vengeance familiale, là aussi de captives, etc. Mais on trouve aussi des romans noirs beaucoup plus ruraux, alors parfois qui lorgnent du côté de l'imaginaire western. Je pense notamment au faux roman Amerlock de la série noire. Il y a des espèces de ranch, c'est assez étonnant. Mais on a aussi assez rapidement, effectivement, des romans noirs qui investissent la ruralité comme un espace angoissant, criminogène, et qui permet des développement narratif très très intéressant.
Alors on a fini par finalement faire retour à la campagne, puisque pour prendre, se mettre un peu au vert et respirer l'air pur, mais quand même il y a dans les années 20-30, ce que vous évoquez, il y a un peu deux courants qui irriguent un peu le futur roman noir. C'est le roman pessimiste, prolétarien. Céline en a donné une vision, une incarnation géniale, mais il y a tout un univers, les Eugène Dabi, les Charles-Louis Philippe, là on est déjà dans le roman noir, il ne s'agit pas d'enquêter sur un crime. C'est le climat général. Et puis, il y a le surréalisme aussi. Parce que, rappelons quand même que Marcel Duhamel, le fondateur de la série noire, vient du surréalisme, que Queneau, qui a quand même beaucoup fait pour la série noire, en vient également. Boris Vian s'est frotté un peu, mais dans un contexte plus parodique à tout ça. Il y a quand même, ça, Benoît Tadier l'avait pointé, mais pour le roman noir américain, il y a quand même un avant-gardisme de toute cette littérature sur le plan littéraire qu'il faut marquer.
Oui, alors Léo Mallet l'incarne parfaitement.
Léo Mallet, bien sûr.
Voilà, parce que lui, il est nourri des deux veines et certains jeux avec le langage, avec l'imaginaire que l'on pourrait lire justement comme des influences du hard-boiled américain sont en réalité des influences du surréalisme dont il se réclame en partie. Et puis, il incarne aussi ce roman noir social, prolétarien. Alors, je pense en particulier, bien sûr, à ce qu'on appelle la trilogie noire, où on a vraiment des...
Le soleil n'est pas pour nous, voilà. Les sphères aux tripes.
Où on a vraiment...
La vie est dégueulasse.
C'est ça.
Pour ceux qui n'auraient pas compris.
Histoire de se mettre en forme le matin. Et c'est vraiment cet imaginaire de la poisse, d'individus ordinaires qui n'ont pas une chance. Le soleil n'est pas pour eux, effectivement. C'est définitif. Et donc, lui incarne très très bien ces deux influences. Et Queneau, probablement, a permis que la série noire existe, puisque c'est lui qui fait en sorte que ce qui était au départ un projet simplement de deux traductions de Peter Chenet par Duhamel devienne une collection dès la libération arrivée.
Mais quand même dans un esprit de jeu littéraire. Ce qui est quand même pas chez les Américains la dimension essentielle. Non. Quand on prend Jim Thompson, Goodis, c'est pas des gens de l'Oulipo. Alors que chez les Français, il y a l'idée qu'on est déjà dans une forme littéraire avec lequel on peut jouer, qu'on peut parodier, qu'on peut s'amuser avec entre guillemets.
Oui, c'est d'ailleurs intéressant parce que dès le début, on va avoir cette prise de distance avec le réel qui est évoqué. La dimension réaliste, elle est très forte. Le tragique est très fort, mais il y a aussi une part ludique. Elle est présente chez Léo Mallet, à la fois dans ses romans parodiques, puisqu'il a écrit sous pseudo, là aussi, des faux romans à Merloc, mais aussi dans les Nestor Burma. Et donc, on a à la fois une distanciation quasi immédiate avec les codes du hard-boiled venus des États-Unis et des jeux avec le langage, avec certains motifs qui font que le roman noir français finalement est d'emblée très intellectuel, quoi, très très littéraire et très intello.
Alors on parle d'intello, on va en écouter quelques-uns là.
Dis donc, qu'est-ce que tu penses du roman?
Qu'est-ce que tu veux que j'en pense? Je pense rien, moi, de ton Ramon. J'en ai rien à foutre. La seule chose, je sais que le gros, il l'a pour la chouette, c'est tout. Enfin, je crois que ça devrait pouvoir s'arranger, quoi. C'est une question de bonhomme entre vous. Hein?
Je sais pas ce qu'en pense Max. Tu connais pas Ramon, je crois.
Non, je le connais pas. puis votre truc de cam, c'est spécial, hein. Non, ce qu'il vous faudrait, c'est un gars qui présente bien, puis qui a pas l'air déplacé au milieu de la clientèle, quoi.
J'ai une maison sérieuse, bien cotée en haut lieu, et qui m'a coûté beaucoup de pognon. J'ai pas envie qu'on me la ferme pour faire un avantage à monsieur Ramon. C'est un train de patin, ton Ramon.
T'es qu'à le garder comme chauffeur, c'est tout ce qu'il peut faire.
Bon, ben, j'ai une idée, moi. Je crois que j'ai l'homme qu'il vous faut. En tout cas, je réponds pour lui. Alors, si ça lui botte, je vous l'envoie dans 5 minutes.
Voilà, 1954, touchez pas au Grisby, le triomphe de Jacques Becker, et puis surtout le retour en grâce de Jean Gabin aux tombes argentées, qui là retrouve l'occasion de démarrer une nouvelle carrière qui durera quand même pas loin de 30 ans. Donc Ventura, Gabin, Paul Frankeur. Là, on est dans quelque chose qui est entre, je dirais, le roman noir américain, avec quand même ce que vous analysez précisément, l'argotisme, le pigalleux, une volonté quand même de transformer ce matériau d'importation en quelque chose de bien de chez nous.
Ouais, très rapidement, très rapidement, en quelques années, disons. Le roman noir français ingurgite les codes du hard-boiled américain et on entre dans ce que certains appellent une ère de la francité, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir des traits spécifiques. Le travail sur l'argot, on peut le voir bien sûr là aussi comme un héritage du hard-boiled états-unien, mais en réalité on sait que les traductions de la série noire notamment renforçaient cet aspect-là, et puis ça vient aussi en droite ligne du roman des bas-fonds. Et du coup, on a très rapidement un ton particulier. Il y a aussi l'humour des dialogues qui est quand même très spécifique à cette production française. Alors bien sûr, très rapidement aussi, on dit qu'on s'égare dans des clichés, hein, cigarettes, whisky et petites pépées, et ça va se figer aussi, hein, bien sûr.
Élise Lépine.
Oui, qu'est-ce que ça donne justement au niveau du langage? Parce que vous en parlez très bien dans le livre, cet argot, on avait fait une spéciale Simonin il y a quelques années d'ailleurs, sur cette langue particulière. Voilà, qui est à la fois, on a l'impression qu'il y a comme une langue ou quelque chose de très ancré dans le polar et dans le roman noir, ouais. Et en même temps, ça bouge beaucoup, ça évolue beaucoup, ça, il y a beaucoup d'influence. Enfin, comment est-ce que vous voyez ça, vous, de votre point de vue de spécialiste? Est-ce qu'il y a un parler roman noir ou est-ce qu'il y en a plusieurs?
Il y a plusieurs parlers roman noir, mais disons que quand même l'argot parisien de la pègre, notamment de Pigalle, est très très présent. Mais là aussi, il est retravaillé par les auteurs qui recréent une langue. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple dans le projet prolétarien, on appelait à une oralité populaire pour parler la vraie langue du peuple, pour donner une voix au peuple et dans un avec des enjeux réalistes. Et assez rapidement, dans les années 50, l'usage de l'argot est au contraire là pour recréer une forme de distance assez humoristique, pour faire pittoresque. Et bien entendu, certains auteurs, Simonin et Le Breton en tête, mais on pourrait aussi parler de Frédéric Dard, évidemment, avec son Antonio, créent une langue et ils retravaillent ça de manière extrêmement littéraire et poétique.
Oui, parce que c'est un argot qui n'existe pas.
Non.
C'est un argot totalement imaginaire, qui sonne argot, voilà. mais qui n'est pas là. Il y a une partie, donc un bon tiers de votre livre, de Natacha Levé, qui va de la série noire au néopolar 1945-1960. 68. Alors c'est quand même, c'est pas très long sur le plan de la chronologie, mais sur le plan de l'évolution et de l'idéologie, c'est quand même considérable. C'est-à-dire qu'on passe de ce modèle viriliste, violent, film d'homme, roman d'homme en 45, à une sorte de, véritablement, de alors là, pour utiliser le mot à la mode, de déconstruction de tout cela en 68, avec, des gens comme Manchette, de Duhamel à Manchette, il y a vraiment une évolution idéologique du polar français qui est considérable, du Fleuve Noir, d'Armand de Caro, jusqu'à, la refondation du polar français. Là, vraiment, Il y a une sorte d'explosion.
Oui, le 68 et les années 70 vont dynamiter les codes, les formes. Alors, il faut bien se rendre compte que c'est notre regard qui nous permet de le constater et de l'analyser ainsi, parce que la majeure partie de la production reste dans la droite ligne de ce qui se faisait auparavant. Et c'est aussi une décennie où on a des brigades mondaines et autres qu'on peut rattacher, bien sûr, au roman noir. Mais en effet, avec des auteurs comme Signac, comme Francis Rick, qui est un auteur un petit peu oublié, je trouve, et qui est extrêmement intéressant, avec bien sûr Amila, qui continue...
Jean Mekert.
Voilà, Jean Mekert, voilà. Amila.
Connu comme romancier noir et noirissime sous le nom de Jean Mekert.
Exactement, et... Je suis contente en plus d'entendre que je suis pas la seule à considérer que Mekert est un auteur de romans noirs, parce que pour moi c'est vraiment ça. Donc ces auteurs-là commencent à fissurer l'édifice qui s'est construit dans les années 50 et 60. Et puis il y a, pour reprendre l'expression de Dénin, la bombe manchette, mais il n'est pas tout seul, qui va tout faire voler en éclats et marquer de son empreinte durablement le genre.
Alors la bombe manchette, elle est quand même due au profil intellectuel assez exceptionnel de Jean-Patrick Manchette, parce que c'est à la fois, c'est un très grand traducteur de l'anglais, c'est un parfait connaisseur de la littérature noire américaine, pas de problème, c'est un jazzophile fieffé, et en même temps, c'est quelqu'un donc qui participe un peu de cette veine de jeu avant-gardiste avec le matériau noir, le matériau polar. Et donc là, on retrouve la tradition de Queneau, de Duhamel, mais transporté du surréalisme vers le situationnisme plutôt. C'est quand même, effectivement, la bombe manchette, elle est due à ça, c'est la catégorie intellectuelle du personnage.
Oui, il est à part. Et ce qu'il distingue, finalement, c'est pas tant ses romans, même si ses romans sont absolument remarquables, mais c'est son activité de critique. C'est-à-dire qu'il a une acuité sur l'histoire du genre, sur ses évolutions, sur son rapport à la blanche dont on parlait, à mon sens inégalé. Et ça en fait un personnage à la stature exceptionnelle. Mais à côté de lui, effectivement, il y a d'autres auteurs comme Vautrin, comme De Mouzon et d'autres qui sont extrêmement ADG, très très intéressant. Évidemment, il est un peu le poil à gratter du polar.
Ah, bah oui, quand même, il faut bien.
Mais c'est un auteur remarquable. Et voilà, on change en quelque sorte de catégorie avec beaucoup de ces auteurs de ces années 70. Qui sont aussi plus diplômés, et qui ont un autre regard sur le genre.
Mais un regard aussi politique. En fait, on entre en politique. Vous parlez de l'âge d'or du polar, donc à partir de la série noire jusqu'à les années 70, 68, tout se politise et le roman noir devient très critique à ce moment-là. C'est ça qui se passe.
Oui, il devient très critique. Alors, en même temps, il faut bien comprendre que la plupart de ces auteurs de romans noirs français écrivent au moment où ils cessent de militer. Et je crois que c'est une erreur que commettent certains universitaires qui considèrent que le néo-polar est un genre, est une forme de roman noir engagé. Ils sont déjà hyper critiques envers les formes d'engagement. Ils sonnent le glas des engagements. C'est le désenchantement post-68 qu'on voit très très bien chez Manchette, mais aussi chez les autres. En revanche, oui, tout se repolitise, c'est-à-dire que le roman noir qui, si on le dit un peu négativement, avait commencé à ronronner justement dans ces clichés, que moi j'adore, mais bon, voilà, je comprends qu'on puisse ne pas apprécier, là, d'un seul coup, reprend prise sur le réel et jette un regard extrêmement corrosif sur la société, sur la culture, sur la politique, enfin sur à peu près tout.
C'est ça la bombe, ouais. Barre-toi, ouais. Va te faire tringler chez les flics! Salope!
Parfait, hein! Comme ça, je garde tout pour moi, hein! T'en verras pas un rond du fric de la vieille! Pas un rond, t'entends? Pas un rond! D'ailleurs, tu t'en fous du fric, toi! Tu planes, toi! Mais pourquoi tu t'en fous du fric? Tu deviens qu'une petite pute! C'est à cause du fric que t'es venu me chercher! Non! C'est ça que tu voulais, non? C'est ça qui t'excite, non? Mais dis-le! Dis-le qu'il y a que ça qui t'excite, hein! C'est quand même pas moi! Qu'est-ce que t'en as branlé d'un connard comme moi? Connard! Pauvre connard! Pauvre connard!
Il va se faire mal, dit le reporter. Effectivement, Patrick Devers, dans Série Noire d'Alain Corneau, on a quand même là un festival extraordinaire, numéro d'acteur fabuleux. Et à la fin, il se donne les coups de tête contre le capot de la voiture pendant que Marie Trintignant fuit dans une espèce de terrain vague boueux et inondé. Grand moment de cinéma noir. Vous en voulez, vous en aurez. Alors, Natacha Levé, refaisons un point sur le sens des mots. On est arrivé à peu près en 68 ou autour de 68, le post 68, ce qu'on appelle un roman noir. Donc à l'origine, on a parlé du roman gothique anglais, il y a le roman, le roman feuilleton prolétarien un petit peu du 19e, dont on connaît les grands classiques. Après, il y a le roman des Poissards, le roman pessimiste, le roman célinien, qui est un roman bouché, d'horizon bouché. Donc c'est une noirceur de climat, une noirceur psychologique, une noirceur sociale, un sentiment de désespérance totale, beaucoup plus que quelque chose d'enquête avec le détective et la solution au problème. Est-ce que dans les années 70, qu'on appellera le polar avec un D ou sans D, par rapport à ce roman noir, comment est-ce qu'il joue et comment on le définit ?
Alors je crois qu'il sanctionne justement la nouveauté de ton d'écriture de cette jeune garde du roman noir qui casse un petit peu ses jouets et ça signale le changement de ton. Puis je trouve que dans la sonorité polar, il y a quelque chose de gouailleux qui renvoie bien au ton de la séquence qu'on vient d'entendre. On est dans des romans qui renouent avec une forme de violence brute. Mais polar est employé au départ surtout pour le cinéma. Là encore, les liens entre les deux sont très très forts. Et par exemple, on l'emploie à propos du cinéma de Melville, je crois. Et puis Blier l'emploie à propos des valseuses, ce qui peut sembler un petit peu étonnant. Parce qu'on n'appréhende pas les valseuses comme un polar. Et le terme va s'étendre aujourd'hui. Quelqu'un qui dit « je lis du polar », c'est qu'il lit du roman policier, toutes formes confondues.
C'est intéressant parce que la question sémantique revient souvent entre polar, thriller et roman noir. Et c'est quelque chose qui est créé parfois. Moi, j'ai assisté à des débats assez vifs et des petites chapelles thriller, roman noir, polar, chacun a sa définition, c'est jamais la même. Vous en avez-vous une pour ces trois catégories ?
Alors, attention là.
J'ai beaucoup de mal moi aussi à m'y retrouver. Je trouve que, alors par exemple, le polar, si on demande à Jean-Bernard Puy s'il écrit du polar, il pousse des cris quoi. Il dit non, polar égale police, et donc en bon anard, il refuse absolument ce terme. On voit très bien que le roman noir dans la bouche de certains éditeurs et auteurs peut englober le polar. Mais c'est vrai que le polar, dans la bouche de beaucoup, signifie aussi enquête, investigation.
Police.
Voilà, police. Et ce n'est pas le cas du roman noir qui permet d'aller chasser sur les terres de la Blanche aussi du même coup. Moi, j'ai beaucoup de mal à donner des définitions. Après, la question du thriller, c'est encore autre chose parce que c'est un petit peu le mouton noir
du roman noir.
Voilà, parce que c'est aussi celui qui marche le mieux commercialement. Donc, il y a cette espèce de prise de distance. Oui, il y a des chapelles, il y a des petites guerres de territoire. Moi, j'emploie indifféremment roman noir et polar, je dois dire. Mais par contre, oui, pour moi, ça n'est pas le thriller.
Il y a une dimension aussi de politique, idéologique, d'intervention. On peut dire qu'après 68, retour Pompidou, Giscard, donc la France bourgeoise revient sur sa... conforte ses assises, on peut le dire, et les déçus de 68 passent à la culture pour continuer le combat. Alors c'est le cas, Manchette d'une certaine façon, avec cette espèce de dandisme situ extrêmement fort. Par exemple, Déninx, c'est différent. Déninx utilise le polar, enfin le roman noir, le polar, Meurtre pour mémoire, c'est sûrement une des premières tentatives d'explication, description, dénonciation du massacre des Algériens de France à Paris pendant la guerre d'Algérie. Donc il y a une dimension politique, d'intervention politique qui est très marquée.
Oui, et ça c'est tout le pouvoir de la fiction. Déninx, il porte à la connaissance du public, et je dirais du grand public, des éléments qui sont par exemple connus des historiens. mais, pardon de le dire brutalement, qui lit les historiens ? Alors que la littérature de genre, notamment, a une force de frappe extraordinaire, et Meurtre pour mémoire, c'est un livre doublement important. C'est un livre important pour ce qu'il porte à la connaissance du grand public concernant la guerre d'Algérie, la répression des manifestations en France et les meurtres qui ont été commis, les violences policières, les meurtres policiers, commandités par Papon en tant que préfet. Et c'est un livre important parce qu'il introduit dans le roman noir un regard sur l'histoire. Jusque-là, globalement, le roman noir était en prise avec le réel immédiat. Et à partir de Déninx, on va commencer à fouiller la cave de l'histoire et on va commencer à exhumer les sales secrets de la République ou de la Ve République ou d'une autre République. Et ça, c'est un mouvement qu'on repère dans toute l'Europe, en l'occurrence.
Ce qui est intéressant, c'est la liberté qu'a pris le roman noir au fil des années. Parce que là, je pense, en vous écoutant, à Hervé Lecor, par exemple, qui publie à la fois des romans noirs historiques absolument passionnants sur différentes guerres, la Commune, etc. Oui. Et puis qui, là, en janvier, vient de sortir un remarquable roman noir d'anticipation. Oui. Donc, je trouve que ça dit beaucoup de choses sur les évolutions du roman noir et cet héritage à la fois, et en même temps, cette invention contemporaine qui se permet d'aller sur un spectre très large en termes d'époque.
Oui, c'est pour ça que, enfin, j'aime le roman noir. Bon, c'est un genre, mais c'est aussi. Alors, il y a eu une tribune d'Aurélien Masson là dans Libération, cette semaine. C'est effectivement un regard porté sur le monde, et du coup, ça peut être un regard porté sur l'histoire, ça peut être un regard porté sur le futur, et pas seulement en tant qu'il témoignerait de notre présent. Il y a vraiment une projection qui est faite souvent sur un avenir proche. C'est ce qui fait aussi, alors bon, ça a toujours été un petit peu le cas, mais disons que ces dernières années, on a vu à nouveau le roman noir flirter avec l'espionnage. Je pense à quelqu'un comme Dewa, hein, qui est un des auteurs les plus remarquables, à mon sens, aujourd'hui. Donc oui, le noir, c'est un regard, c'est un registre qui peut s'emparer de divers genres, qui peut s'en nourrir, en tout cas. Et ça lui donne une liberté extraordinaire.
Allez, viens là, toi.
T'as quel âge ?
19 ans, pourquoi ?
Tu me regardes pas quand tu parles, tu regardes le mec qui est à côté.
Oh, c'est moi que tu regardes.
On m'a dit que t'avais pris 6 ans. Putain, ça va être long, 6 ans. Hein. T'as déjà eu des problèmes dans la cour, tu crois que tu vas tenir longtemps sans protection ?
Je tiendrai le temps qu'il faudra. Vous voulez quoi, là ?
Te protéger. Tu parles arabe ?
Ouais, je parle.
Il y a un mec qui t'a parlé dans les douches. Tu le connais ? Qu'est-ce qu'il voulait ?
Je sais pas, il voulait parler. Pourquoi ?
Me regarde pas, je te dis. Parce que je veux que tu continues. Je veux que tu t'approches de lui, que tu deviennes pote avec lui.
Pourquoi ?
Parce que tu veux le tuer. Capir, non ?
Tu vas devenir pote avec lui parce que tu vas le tuer. Nisar Estrup dans un prophète de Jacques Audiard. Alors effectivement, il est temps, largement temps, Lise Lépine, d'évoquer les figures féminines dans la question du roman noir. Parce qu'à l'origine, c'est des dames. Marie Shelley, Anne Radcliffe, ce sont des dames qui ont fondé tout ça. Et aujourd'hui...
Vous parlez, à un moment donné, il y a un chapitre qui s'intitule « Un polar de bonhomme ». Et puis on voit qu'effectivement, cette littérature devient très bonhomesque. Pendant longtemps, hein, c'est vraiment l'empire des hommes, les lecteurs et les personnages et la femme. Alors c'est intéressant, vous expliquez que la femme fatale qui vient d'Amérique va changer assez rapidement en France et ne plus être cette femme fatale, mais autre chose. Et puis ensuite, il y a des voix féminines qui arrivent et puis des lectrices aussi. Comment est-ce que vous avez, quel regard vous posez, vous, sur le féminin au cœur du polar, comment vous l'avez vu évoluer ?
Alors, je l'ai vraiment vu évoluer, en effet, parce que, bon, dans un premier temps, effectivement, c'est du polar de bonhomme, c'est écrit par des hommes, majoritairement pour des hommes. Les personnages féminins sont globalement très stéréotypés. On peut lire des horreurs, hein, vraiment, dans tous ces polars-là. Elles arrivent très tard en France en tant que voix du roman noir. Donc l'une des premières, c'est Jeannine Oriano à la série noire. Mais il faut attendre les années 1990 pour qu'il y ait le fameux phénomène des chéries noires. Rien que le l'expression est un peu condescendante, on va dire. Et alors à ce moment-là, la plupart des romancières refusent d'être assignées à leur genre, d'où les pseudonymes avec des prénoms androgynes, hein, Dominique Manotti et d'autres. Elles se méfient énormément du regard condescendant qu'on pourrait jeter sur leur roman. Et puis après, on a des voix qui s'affirment, et aujourd'hui elles sont quand même assez nombreuses à s'emparer de questions de société avec un regard féminin qu'elles assument pleinement. Donc les choses ont vraiment beaucoup beaucoup évolué au tournant du XXe et du XXIe siècle.
Mais il y a aussi une tarte à la crème, Natacha Levey, c'est la question des séries, des plateformes. Est-ce qu'on n'écrit pas aujourd'hui en vue des séries? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de destination du texte qui est moins littéraire que scénaristique et que le rêve, c'est de devenir auteur de séries? Puis il y a pas mal de gens qui sont passés, je dirais, du roman à la série, du roman au scénario télévisé.
Oui, alors ça...
Alors vous me direz, c'est pas nouveau. C'est non, vrai voilà, que la série noire des années 50 ouais. était formatée pour faire du gabin.
Oui,
voilà, bon. Mais quand même, ouais. aujourd'hui...
Alors, il y a deux choses. La première, c'est que pour les auteurs, c'est parfois une manière de vivre de leur plume. C'est beaucoup plus rémunérateur que de publier simplement des romans. Donc, ils se tournent volontiers vers ce type d'activité. En termes d'écriture, je trouve que le roman noir est relativement épargné par ce côté ultra cinématographique qui parfois dans certains romans policiers, certains thrillers confine de mon point de vue à l'absence d'écriture. Et d'ailleurs on lit parfois des critiques qui disent ah c'est très cinématographique. Alors ça peut vouloir dire que ça a du rythme et que c'est très visuel, mais ça peut vouloir dire effectivement que ça a pas de densité en termes stylistiques. Et je trouve que le roman noir français est quand même s'en tire pas si mal de ce point de vue là.
Si vous deviez sortir du lot un auteur ou une auteure, Natacha Levey, ce serait qui?
Quelqu'un d'aujourd'hui?
Ah ben oui, quelqu'un, mettons deux noms, deux trois noms qui incarnent au mieux l'histoire du roman noir pour nos auditeurs.
Alors, qui incarne l'histoire du roman noir, je vais dire Léo Mallet.
Jean-Patrick Manchette.
Et puis, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, Dewa est quand même quelqu'un d'absolument remarquable.
Voilà, donc ceux qui veulent s'orienter vers le roman noir, Alice Lépine, vous validez ce...
Absolument. Et combien? Au combien?
Et moi, je me permettrais de rajouter Hugues Pagan, parce que quand même, en matière de noirceur...
J'adore.
Bon. On pourra écouter d'ailleurs la série d'entretiens qu'il a accordé à Hubert Prolongeau, de mauvais genre. Mais Hugues Pagan, c'est quand même l'incarnation de la noirceur absolue. Oui. C'est un homme qui est à la fois qui a un trajet historique personnel et puis qui a quand même beaucoup fait pour le noir et la noire.
C'est un auteur remarquable.
Merci Natacha Levey. Je recommande bien évidemment votre travail d'historienne. Le roman noir, une histoire française, c'est au PUF.
Such a nice way to be in love. I can feel the thrill of loving and never feel the sting of pain. Love is cry, but I can only laugh. Never get upset because I've fallen only halfway in love. It is the best way of being in love. Happy if you never think of me, overjoyed if you do. I'm half way, only half way in love with you.
Chronique dans Mauvais Genre, on commence avec vous Céline Duchesnay, l'almanach de l'étrange.
«
C'est au son des corbeaux que j'ai rencontré André Chabot, artiste et collectionneur dont la vie est entièrement consacrée à la mort. C'était un hiver de 2013, nous nous étions donné rendez-vous au cimetière du Père-Lachaise car il venait de sortir un livre à la Musardine intitulé « L'érotique du cimetière ». Nous avions erré entre les tombes à la recherche de sculptures équivoques et de postures ambiguës. Et face à une gisante alanguie, il m'avait confié ceci.
On a toujours envie de réveiller la belle endormie. C'est un peu une sorte de belle au bois dormant dont on se dit qu'avec un tout petit peu de chance, un petit peu de magie, peut-être un effleurement de la pierre, on va redonner vie à cette femme qui, toujours jeune, et qui manifestement nous montre des formes plutôt agréables, on a presque envie d'en profiter, à tel point que certains vont jusqu'à tenter d'en profiter. C'est-à-dire que dans le cimetière, on assiste parfois à des scènes d'ordre fétichiste.
La statue était restée de marbre et les fétichistes étaient restés cachés. Et nous avions poursuivi notre promenade radiophonique jusqu'au tombeau d'André Chabot. Car oui, André Chabot et son épouse Anne Fuard ont acquis une ancienne chapelle de 1850 qu'ils ont restaurée, qui abritera leur dépouille, et dans laquelle ils ont installé une sculpture en granit noir qui représente un appareil photo. Sur le fronton du mausolée est inscrit en lettres capitales « La mémoire nécropolitaine ». La mémoire nécropolitaine est une association culturelle qu'ils ont créée tous les deux et qui est entièrement consacrée au patrimoine funéraire. Ils ont par exemple à ce jour 250 000 photographies de tombes prises par André Chabot, soit plus de 50 ans de voyage de cimetière en cimetière dans plus de 70 pays. Un livre consacré à ce fonds aussi bien documentaire qu'artistique vient de sortir aux éditions Païen, intitulé « Collectionner les tombes ». Il réunit un florilège de photos d'André Chabot et propose une déambulation intemporelle dans les allées d'une vaste nécropole fictive, selon les mots de l'éditrice Lia Pradal. De grand format, avec un papier épais et une impression en rhizographie, on peut ainsi se promener dans 12 chapitres thématiques. Des chapelles funéraires et tombeaux grandiloquents, aux cryptes et aux ossuaires, en passant par des vues aériennes d'immenses nécropoles ou des caveaux, sans oublier les cimetières forestiers. Ce portfolio de photographies en noir et blanc est accompagné de 3 textes de Lia Pradal, de Sylvain Besson et d'Ambre Charpier, ainsi qu'un ensemble de photographies de Marie Kéo qui s'est immergée dans l'appartement atelier d'André Chabot et d'Anne Fuard, véritable cabinet de curiosité consacré à l'art mortuaire. La photographe a capté l'environnement intime de ce couple entre cercueil à hublot, sculptures, livres, photographies, une collection unique en son genre à découvrir dans ce très bel ouvrage qui tient autant du catalogue que du livre d'artiste. Collectionner les tombes d'André Chabot avec la collaboration d'Anne Fuard est sorti aux éditions Païen, une maison d'édition qui, selon leurs propres mots, aime explorer les ombres et recoins des récits de la culture populaire. Toutes les informations sont à retrouver sur la page de l'Almanach de l'étrange et de Mauvais Genre.
Merci Céline pour cet almanach de l'étrange tout en cimetière gothique. Deuxième chronique avec vous, Élise Lépine, vos choix noirs, bien sûr.
Voilà, alors moi, c'est La Pouponnière d'Himmler de Caroline de Mulder. C'est un roman que j'attendais, alors c'est en blanche, hein, mais c'est un roman que j'attendais avec grande impatience, parce que comme vous, François, moi j'adore cette romancière.
Ah oui, ce Mulderien.
On l'avait reçu, voilà, on est Mulderien, pour Manger Bambi, pour Calcaire également, les romans précédents. C'est une grande plume sombre, elle a un imaginaire très fertile, assez glaçant, et puis elle a souvent des considérations passionnantes sur le bien, le mal, et puis tout ce qui s'étend entre les deux. Alors dans cette Pouponnière d'Himmler, elle aborde un sujet assez peu connu finalement, en tout cas que moi je connaissais très, très mal. Ce sont les Lebensborn, qui étaient ces pouponnières créées par les nazis, dans lesquelles des femmes enceintes de SS, alors soit elles étaient célibataires, elles étaient veuves, ou elles étaient mariées avec des soldats combattants, étaient bichonnées le temps de leur grossesse et puis dans les mois qui suivaient la naissance des bébés, parce qu'elles allaient amener au monde, elles allaient amener au Reich, les seigneurs de la guerre, mères de l'avenir, donc des bébés ariens parfaits, avec les critères bien sûr que l'on connaît, sordides, hein, les yeux bleus, blonds, avec des dimensions parfaites, etc. Et ceux qui n'étaient pas, en tout cas considérés comme parfaits par les nazis, ceux qui n'étaient pas considérés comme parfaits étaient euthanasiés sans aucun état d'âme. Elle fait se croiser trois destins dans ce roman. D'abord, il y a Helga, qui est une infirmière dans une de ses pouponnières, bien sous tout rapport, qui petit à petit va remettre en question ce qu'elle considère comme un système idéal. Au fur et à mesure que ce projet va se déglinguer, quand, eh bien, évidemment, les Allemands vont reculer et puis commencer à perdre la guerre. Il y a Renée, qui est une Française, qui a été tondue en France parce qu'elle était enceinte d'un Allemand, d'un SS, et qui va se retrouver en Allemagne en espérant être sauvée ou être prise en charge là-bas, puis qui va bien sûr être trahie. Et puis il y a Marek, qui est un déporté polonais, qui lui construit à coups de schlag, hein, et affamé complètement, de nouveaux lits pour les femmes et les enfants qui doivent arriver et qui doivent repeupler l'Allemagne. Alors on est en fin 44 et tout va très rapidement se relâcher et tomber dans le chaos. Alors c'est un roman que j'ai trouvé magnifique. D'abord, la plume de Caroline de Mulder est fascinante. Elle est à la fois crue, elle est brutale et en même temps elle est pleine de finesse, pleine d'élégance. C'est vraiment une écriture du contraste que je trouve. Que je trouve génial. C'est un roman qui est passionnant aussi d'un point de vue historique parce qu'il mêle une documentation et puis il nous révèle des choses qu'on ignorait. Voilà, il y a beaucoup d'intelligence, mais ça reste de la fiction et je trouve que elle mélange très bien. Et c'est pas facile quand on parle de ces sujets-là de nazisme. Elle mélange très bien la fiction et l'histoire. Et puis c'est un roman d'une profonde intelligence qui vient questionner la mauvaise conscience évidemment nazie, mais aussi la complexité de l'âme humaine, sa noirceur, sa lumière. On est loin de tout. Des salauds, on est vraiment dans quelque chose qui nous révèle, comme peu de romans l'ont fait, je trouve, ou le font, l'absurdité, l'horreur du système nazi et en même temps la lumière qui peut exister quand même chez les êtres humains. Voilà, c'est magistral.
Deuxième préconisation.
Préconisation, je le dis vite, rapidement. Hein, c'est le Steve McQueen. C'est une collaboration à quatre mains entre Caryl Ferré et Tim Willocks. Alors en disant ça, je pense que j'ai déjà tout dit. C'est à l'occasion de Quai du Polar, justement, il y a toujours un roman à quatre mains qui était publié par les éditions Point. Et là, bien, c'est une histoire pour vous faire en deux mots. On est entre Tarantino et les frères Coen. Voilà, c'est assez génial. Ah bah, patience néanmoins, parce que ça sort le 22 mars. Mais je me suis... Enfin, on se marre. Quoi. Et en même temps, ça reste, c'est pas du délire, quoi. C'est tenu. C'est très réussi.
Merci Élise. Et puis moi, je recommanderais chaudement, comme on dit toujours, aux éditions textuelles, le livre Autopsie du spectacle consacré à Vigy. Vigy, évidemment, on connaît le photographe spécialisé qui avait branché une sorte de radio dans sa voiture sur l'onde de la police et qui est arrivé toujours le premier pour pouvoir photographier les morts. Et donc là, il y a un très très bel album sur Vigy, puisqu'on découvre à la fois tout son travail sur les faits divers criminels, sur les personnalités du cirque et sur la population urbaine américaine. C'est un livre magnifique aux éditions textuelles. Je rappelle donc les ouvrages évoqués aujourd'hui. Natacha Levay, merci d'avoir été notre invitée. Le roman noir, une histoire française au PUF. André Chabot, avec la collaboration d'Anne Fuard, c'est le livre Collectionner les tombes aux éditions Payen. Les pouponnières d'Himmler de Caroline de Mulder, c'est aux éditions de la NRF. Et puis, Rocher Point, le livre de donc Caryl Ferré et Tim Willocks. Et puis, je répète, Ouija, chez Textuel. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Nicolas Dalmas, Claire Poinsignon, Céline Duchesnay, Claire Martin-Dugard, Élise Lépine et François Angelier vous remercient d'avoir suivi Mauvais Genre. La semaine prochaine, je recevrai Michaël Matisse pour son formidable travail sur Au cœur des ténèbres, Kurtz aux éditions Frémok.